8e Jazz and Blues, bonjour. Donc, c'est Bernard à l'antenne. Et je vous resserre mon petit couplet habituel. Nous avons besoin d'animateurs à la radio et notamment d'animateurs pour JM Jazz and Blues parce que je suis tout seul et que je ne suffis plus, au moins pour passer du blues. Et aussi parce que ben, cet été, je ne serai pas forcément là tout le temps. Donc, vous n'aurez pas d'émission pendant l'été. Donc, on recherche des animateurs. Il n'est pas besoin d'avoir des connaissances techniques. On s'occupe de la technique pour vous. Juste l'envie de partager, de faire écouter du jazz, de faire entendre du jazz, et éventuellement d'en parler ou d'avoir un petit peu de quelques commentaires, ou même pas, mais avec l'envie de partager et de faire écouter la musique que vous aimez. Donc voilà, c'est pas trop difficile. Et je compte sur vous. Vous me contactez au Club Jazziroise ou bien à Radio U. Voilà.
Le jazz sur Radio U, t'es loin d'avoir tout entendu.
Voilà, et en attendant, je reprends l'histoire du jazz. Et nous sommes en 1942 depuis un moment déjà. Et nous allons parler de Jane Krupa parmi les enfants de Benny Goodman. On a déjà parlé de Jane Krupa et de Harry James depuis qu'ils avaient quitté le clarinettiste. Krupa était parti en 1937 pour monter sa propre formation. Et il ne se doutait pas qu'en 1942, qu'il allait retrouver son ancien patron dès l'année suivante. The Drummer's Band qu'on va écouter, co-signé Jane Krupa et Roy Eldridge, est un parfait exemple de l'association du batteur avec le trompettiste. En recrutant ce dernier et la chanteuse Anita O'Day, ils s'étaient attachés les services de deux solistes d'exception et leur passage dans l'orchestre correspond aussi à sa meilleure période. Ce n'était d'ailleurs pas facile pour un soliste noir, car Eldridge était noir, que d'affronter quotidiennement une Amérique souvent éprise de ségrégation et qui n'appréciait guère qu'un homme de couleur se trouvât sur scène dans un orchestre blanc. Sans parler du détail de la vie en tournée, car le trompettiste n'était pas toujours accepté dans les endroits où ses collègues s'arrêtaient pour se restaurer ou pour dormir, notamment. Dans That Drummer's Band, Roy Eldridge se taille un solo tout en aspérité, fulgurance dans l'aigu, et présente un de ses numéros spectaculaires qui était devenu sa spécialité et ne représentait pourtant qu'une facette et pas forcément la plus intéressante de son génie. Dans Harlem in Parade, le premier morceau qu'on va écouter, la chanteuse et Anita O'Day, encore verte si l'on peut dire, mais qui possédait déjà ce sens du rythme qui la distinguerait de la cohorte de chanteuses blanches associées à des grands orchestres, et ce talent-là n'avait pas échappé à Krupa lorsqu'il avait engagé. Anita O'Day est aux yeux des connaisseurs parmi les plus attachantes vocalistes blanches, et elle sut en effet se forger une expression personnelle, naviguant pour son compte entre l'art de Billie Holiday et celui d'Ella Fitzgerald, deux pôles majeurs du chant. Anita et Roy apprécièrent beaucoup leur passage chez Krupa, d'ailleurs, d'autant que la personnalité et le charme du batteur constituaient de sérieux atouts dans l'ambiance du groupe, et ne manquèrent pas de souligner qu'ils avaient représenté une étape importante dans le développement de leur style. Alors, donc nous allons écouter ces deux morceaux qui sont d'abord Harlem on Parade, un thème d'Evans et de Carter, puis That's Drummer's Band, un thème de Krupa et de Eldridge. Nous avons dans l'orchestre, donc pour le premier, pour Harlem on Parade, nous avons Roy Eldridge, Mickey Mangano, Norman Murphy, Al Beck à la trompette, John Grassi, John K. Leher, Babe Wagner au trombone, Ben Friedman, Sam Maziker au saxophone alto et à la clarinette, John Million, Don Brassfield au saxophone ténor, Red Sitting au saxophone baryton, Milk Raskin au piano, Ray Biondi à la guitare et à l'arrangement, et Ed Mihalish et Jen Krupa aux percussions, et Anita O'Day c'est la voix. C'est enregistré à New York le 23 janvier 1942 pour Columbia sous le numéro CO32-312-3. Et le suivant, ça sera le même, mais Greg Philippe, Tommy Pedersen, au trombone, Joe Springler au piano, Teddy Walters à la guitare, en place Grassi, Kellier, Raskin, Biondi. Anita O'Day ne chante pas, et Elton Hill est à l'arrangement, enregistré sous New York le 13 juillet 1942 pour Columbia, CO32-999-3.
Everybody's here to cheer for Harlem on parade. When you hear the bugle blow, that's the time you're bound to know that the man behind the horn is as handy with a gun when there's fighting to be done. Every heart within the crowd beats it out with head unbowed. Uncle Sam is mighty proud of Harlem on parade. Thank you. time you're bound to know that the man behind the horn is as handy with a gun when there's fighting to be done. Every heart within the crowd beats it out with head unbowed. Uncle Sam is mighty proud of Harlem.
Donc c'était Gene Krupa and his orchestra, Harlem on Parade, puis That Drummer's Band. L'orchestre de Jimmy Lunsford offrait une pulsation légère et rebondissante, et son art du swing ne jouait pas sur les ficelles ou les câbles chers aux adeptes du bon gros son et de l'éraillement propre à électriser les foules. La vogue de sa musique devait davantage à son élégance qu'à ses muscles proéminents. Blues in the Night, le prochain morceau que nous allons écouter, gravé au crépuscule de la carrière de Lunsford, demeure l'une de ses pièces les plus fameuses. Œuvre de Harold Arlen, elle fut conçue par son auteur, le créateur de Stormy Weather et de Over the Rainbow, à l'occasion du tournage d'un film Hot Nocturne, où l'on entendait un noir qui chantait le blues au fond de sa cellule. Jimmy Lunsford fut le premier à la jouer, contraint et forcé car le morceau ne lui plaisait pas, rappelait Arlen, fort dépité, qui avait fait appel au talent de parolier de Johnny Mercer. C'est Jack Capp des Disques des K qui le poussa à l'enregistrer et même à lui consacrer les deux faces d'un 78 tours. Ce fut un très gros succès qui rejaillit même sur le film tourné par Anatole Litvak, qui fut rebaptisé Blues in the Night, ce qui nous permet de voir assez brièvement à l'écran l'ensemble de Lunsford. Keep Smiling, Keep Laughing, Be Happy, c'est le deuxième morceau qu'on va écouter de Jimmy Lunsford, était sans doute un mot d'ordre pour les hommes de Lunsford. Ils en avaient en tout cas bien besoin en cette période où ils avaient de moins en moins confiance dans les talents d'hommes d'affaires de leur chef, persuadés qu'ils se faisaient rouler. L'autre conclusion pouvait être qu'ils les roulaient. C'est en tout cas une œuvre légère dévolue au saxophoniste Joe Thomas, chanteur à la voix agréable, légère, un tantinet nasillarde, de celles qui vont si bien avec le Lunsford Sound. Alors, donc, nous allons écouter ces deux morceaux. D'abord Harlem on Parade, un terme de Evans et de Carter, puis That's Dummer's Brand. Non, attendez, je me trompe, je donne les morceaux qu'on vient de passer, excusez-moi. Donc, Blues in the Night, partie 1 et 2 d'ailleurs, un thème de Harlan et de Jim Mercer. Et puis, Keep Smiling, Keep Laughing, Be Happy, un thème de Jackson. Et nous avons dans l'orchestre, donc nous avons Snooky Young, Paul Webster, Gerald Wilson à la trompette, Elmer Crumbey, Russell Bowes, Trumy Young au trombone, Willie Smith au saxophone alto et la clarinette, Ted Bruckner, Dan Grissom au saxophone alto, Joe Thomas au saxophone ténor, L. Carwater au saxophone baryton, Edwin Wilcox au piano, Al Norris à la guitare, Mose Allen à la basse et Jam Cranford aux percussions, Jimmy Lunsford faisant la direction et le vocal. Alors, il s'agit de l'enregistrement à New York le 22 décembre 1941 pour DECA sous la référence 70093/94. Et puis, le deuxième morceau, ce sera les mêmes, mais Freddie Webster, Robert Mitchell à la trompette, Pee-wee Jackson au trombone et aux arrangements, Friedman Arbello au trombone, Benny Walter au saxophone alto, remplace Wilson, Crumbley, Bruckner et Joe Thomas. Et nous sommes à Los Angeles le 26 juin 1942, enregistré pour DECA. Sous la référence DLA 3066. Thank you.
darling told me, son.
What she tell you, man?
A woman will speak up and give you the glad eye. But when the sweet talking's done,
she ain't gonna do nothing.
A woman's a two-faced, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues
every time
in the night. Now the rains are falling, yeah, the trains are calling, ooh-wee. Mama done told me, yeah, that lonesome whistle blowing across the trestle, ooh-wee. Mama done told me, ooh-wee, ooh-wee. Oh, clickety-clacks are echoing back the blues in the night.
C'était Blues in the Night, premier morceau, puis Keep Smiling, Keep Laughing, Be Happy. C'était deux morceaux joués par Jimmy Lunsford and his orchestra. Alors, dès février 1940, Charlie Parker était apparu dans les colonnes de la revue de jazz Downbeat, son correspondant à Kansas City, annonçant que le pianiste chef d'orchestre Jay McShann, programmé au Century Room, avait engagé le premier trompette, Buddy Anderson, de Tulsa, Oklahoma, et un nouveau saxophoniste, alto. L'anonyme n'était autre que Charlie Parker. Entrant dans un des orchestres les plus actifs du Middle West, Yardbird, tel était déjà son surnom, avait ouvert une première porte avant de s'engager dans le long couloir menant à la reconnaissance. La musique de Jay McShann avait de profondes racines en terre du Kansas, sans pour autant se limiter au blues du terroir. Son saxophoniste ténor, William Scott, écrivait de bons arrangements, assez modestes, proches de ceux alors utilisés par Count Basie, et lui arrivait même d'en écrire à partir d'une idée de Charlie Parker. La vente du disque Confessing the Blues, enregistré en avril 1941, à plus de 100 000 exemplaires, avait beaucoup contribué à la réputation nationale de l'ensemble et lui valut de se produire au fameux Savoy Ballroom de New York à partir du 14 février 1942. Ceux qui entendirent ainsi Charlie Parker en direct furent souvent impressionnés par la qualité de son jeu. En tout cas, les faces de la même époque où on l'entend en solo manifestaient aussi une réelle fraîcheur d'inspiration et sa sonorité s'imposa immédiatement à l'attention. Cela ne nous autorise pas pour autant à proclamer que tout Parker était déjà là, l'aigle perçant sous l'oisillon. Son phrasé accusait cependant une complexité qui le distinguait des souffleurs qu'il côtoyait. Sa syntaxe n'était pas du tout la même encore que celle du bebop. L'éloquence pourtant peu appuyée de ce témoignage sonore appelle d'autres réflexions. Ces hommes qui allaient bouleverser le monde du jazz étaient donc déjà à l'œuvre au début des années 40. Et pourtant, rares étaient les signes qui auraient pu permettre de prophétiser la naissance prochaine d'un nouveau monde. Charlie Parker et Dizzy Gillespie s'étaient même déjà rencontrés, dès 1939, le second étant de passage à Kansas City avec l'orchestre de Cab Calloway. Gillespie se souvient avoir été frappé par l'existence de préoccupations communes. La suite s'écrit quand même en pointillé, puisqu'il fallut quelques années avant que ne se consacra leur association. Donc nous allons écouter un petit poulet.
Le jazz sur la nuit, t'es loin d'avoir tout entendu.
Et nous allons écouter The Jumping Blues suivi de Lonely Blues. Les deux thèmes sont de Jay McShann et c'est Jay McShann and his orchestra qui le joue, avec dans l'orchestre Bob Merneil, Bernard Anderson, Orville Minor à la trompette, Lawrence Anderson, Joe Baird au trombone, Johnny Jackson, Charlie Parker au saxophone alto, Bob Mabban, Freddie Culliver au saxophone ténor, Jimmy Coe au saxophone baryton, Jay McShann au piano et à l'arrangement, Leonard Enoa, à la guitare, Jen Ramey à la basse, Harold Doc West aux percussions, enregistré à New York le 2 juillet 1942, sous les références des cas 70-995 et 70-993.
lonely, nothing seems okay. When you're feeling lonely, nothing seems okay. Forget your troubles and jump your blues away. If your woman tells you that she's going to stay, if your woman tells you that she's going to stay, don't drink no whiskey, just jump your blues away. You can't drown no trouble, boy, that's all a lie. You can't drown no trouble, boy, that's all a lie. I'll be jumping the blues until the day I die.
Jay Maishan and his orchestra qui jouait Just Jumping Blues puis Lonely Boy Blues. La revue Jazz Métronome perpétuait sa tradition instaurée depuis quelques années, consistant à organiser au début de chaque année une séance de disques destinée à rassembler les musiciens élus par ses lecteurs pour l'année précédente. Il s'agissait souvent d'une formation éclectique, mais même si elle pouvait constituer sur le papier un orchestre de rêve. Le meilleur trompettiste, le meilleur saxophoniste, le meilleur pianiste, etc., mis ensemble, n'ont jamais forcément donné le meilleur orchestre. Et cette loi ne se vérifie pas seulement dans le domaine du jazz, elle est aussi valable dans les sports d'équipe. Fermons la parenthèse. En tout cas, le personnel des deux séances, celle du 31 décembre 1941 et du 16 janvier 1942, illustre bien la vision d'un bon nombre d'amateurs de jazz de l'époque, celle d'un public en majorité blanc. Sur Royal Flush, qu'on va écouter en premier, enregistré en décembre par le métronome All Stars, apparaissent Harry James, Cootie Williams et Roy Eldridge aux trompettes, J.C. Higginbotham et Lou McGarity aux trombones, Benny Goodman à la clarinette, Toots Mondello et Benny Carter au saxophone alto, Vido Musso et Tex Benek au saxophone ténor, Count Basie au piano, Freddie Green à la guitare, Doc Goldberg à la contrebasse et Jane Krupa à la batterie. La formation de janvier ne compte qu'un trompettiste, Williams, et un tromboniste, Higginbotham, un clarinettiste, Goodman, et un seul altiste, Carter. Count Basie tient encore le piano. Pour le reste de la rythmique, Alvin O'Reilly succède à Green et John Kirby à Goldberg. Le seul changement significatif étant la présence de Charlie Burnett au saxophone ténor. Le choix des trompettistes était particulièrement éloquent. Harry James, nous l'avons vu, était toujours en haut de l'affiche, car il était resté en vedette à la tête de son grand orchestre, depuis qu'il avait quitté Goodman. Cootie Williams bénéficiait toujours de la formidable réputation qui lui avait valu son passage de l'ensemble de Duke Ellington à celui de Benny Goodman. Roy Eldridge profitait quant à lui de sa promotion assurée par l'association avec le batteur chouchou des foules, Jane Krupa. Décidément, le fait pour un grand soliste noir de se joindre à un orchestre blanc réputé lui valait la reconnaissance d'une audience bien plus importante. En ce qui concerne les trombones, J.C. Higginbotham avait été l'un des plus grands du jazz classique, œuvrant au sein de la plupart des orchestres noirs de renom, le dernier en date étant celui de Louis Armstrong. Il avait conquis son indépendance en 1940, montant son propre groupe associé avec le trompettiste Henry Red Allen et faisant de belles nuits du Café Métropole de New York. Lou McGarity, un des meilleurs représentants de l'école blanche, homme de swing et de Dixieland, dans la tradition inaugurée par Milf Moll, travaillait alors pour Goodman. Benny Carter vivait une période particulièrement faste. Il avait travaillé au Savoy de Harlem en 1938 et 1940, et d'abord à la tête d'un grand orchestre, avant de se résoudre à s'entourer de groupes d'un format plus modeste. On vit alors passer dans leur rang des hommes qui constitueraient bientôt le panthéon du bebop, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Gigi Johnson, Max Roach. Il ne put toutefois maintenir longtemps son ensemble, car le seul moyen d'y parvenir aurait été de partir en tournée, ce qu'il ne désirait pas. Chez les saxo-ténors, Vido Musso avait assis sa position, successivement auprès de Jane Krupa, 1938, Benny Goodman, 1939, Harry James, de 40 à 41. Il revint d'ailleurs chez Goodman en 1942. Il avait ainsi touché un large public, ce qui lui permit de se retrouver en tête des référendums des revues spécialisées, alors que l'on aurait pu s'attendre à y voir Coleman Hawkins, par exemple, dont il s'était d'ailleurs beaucoup inspiré. On pouvait dire à peu près la même chose de Tex Benek, alors chez Glenn Miller. Nul ne s'étonnera de la présence dans cette réunion de prestige de Count Basie et de son fidèle Freddie Green à la guitare, encore qu'il ne jouissait pas de la même cote que Glenn Miller après du grand public. En revanche, pour la contrebasse, le nom de Doc Goldberg ne dit pas grand-chose à personne et on comprend qu'il ait cédé la place pour la séance de janvier à John Kirby, l'homme qui, avec Jimmy Blanton, dominait alors le monde de la contrebasse. Ce dernier avait dû quitter la grande formation de Duke Ellington fin 1941 pour être hospitalisé dans un sanatorium en Californie. On notera la présence d'Alvin O'Reilly Lors de la seconde séance, il était à l'époque à la tête d'un grand orchestre populaire et son jeu de guitare électrique était apprécié. Un Charlie Christian de bazar, diraient peut-être certains. Mais à ce moment-là, Christian était très malade et allait mourir le 2 mars 1942. Seul changement significatif pour la séance de janvier, la présence de Charlie Barnett au saxophone ténor, sanctionnant la côte ascendante de son grand orchestre, un des plus sympathiques parmi les Blancs, et d'ailleurs ouvertement voué à la cause du jazz noir. Barnett, rappelons-le, était un grand admirateur de Duke Ellington, l'occasion pour nous de déplorer l'absence d'Ellington des Ellingtoniens à ces deux séances. Donc, nous écoutons Royal Flash, puis I Got Trim.
Thank you.
Vous avez entendu donc The Metronome All Stars qui jouait Royal Flush, un thème de Count Basie, suivi d'un petit poulet, c'est-à-dire Chicken Rhythm par Slim Gaillard et Slam Stewart, et enfin I Got Rhythm, un terme de Gershwin. Et en matière de notoriété, pour en finir avec les grands orchestres blancs, Glenn Miller était en passe de doubler tout le monde. Pourtant, son sort en dessina autrement, puisqu'il s'engagea dans l'armée de l'air en septembre 1942. Cette noble institution sut utiliser au mieux ses compétences, puisqu'elle lui confia le soin de diriger un grand orchestre, dont la notoriété dépassa très vite le cadre strictement militaire. American Patrol, enregistré le 2 avril 1942, appartenait à la tradition de la musique militaire, puisqu'il fut composé en 1885 par F.W. Misham et enregistré en 1909 par le grand spécialiste de ce type de musique, John Philip Sousa. Quant à Miller, estimant que l'édifice devait être repeint, il en confia l'arrangement à Jerry Gray, qui sut en faire un petit monument mobile de swing, l'astuce consistant à accorder la première place au saxophone, alors qu'on se serait attendu à trouver, comme à l'ordinaire dans ce genre musical, les cuivres au premier plan. Georges Frazier raconta que lorsque Miller décida de dissoudre son orchestre, la dernière soirée fut on ne peut plus maussade. Les musiciens avaient passé presque toute la journée dans un salon en face du théâtre où ils allaient jouer le soir. Ils étaient pour la plupart copieusement imbibés, et lorsque, à l'heure du spectacle, un des trompettistes dut descendre du podium afin de venir sur le devant de la scène jouer un solo, il y renonça, incapable de bouger, et Miller lui lança « Ça va, reste là-haut, espèce de salopard ». Donc, nous écoutons American Patrol avec dans l'orchestre, nous avons Dal McMichael, John Best, Billy May, Steve Lipkins pour la trompette, Glenn Miller, Jim Priley, Paul Tanner, Frank Danetto au trombone, Wilbur Schwartz, Lloyd Martin, Ted Benek, Al Klink, Ernie Caperes au saxophone, Chummy McGregor au piano, Bobby Hackett à la guitare, Don Goldberg à la basse, Maurice Purtill aux percussions, Jerry Gray à l'arrangement, New York le 2 avril 1942, sous la référence Victor 072-230.
Thank you.
et c'est cet American Patrol joué par Glenn Miller et un orchestra qui vient clore notre émission. Voilà, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Mel Powell. The world is waiting for the sunrise, mais cela attendra la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, à bientôt.
Le jazz sur la nuit, t'es loin d'avoir tout entendu. T'es loin d'avoir tout entendu.